Chapitre 16. Des églises de la terre à l'église du ciel. Fête de la dédicace des églises. Voici la demeure de Dieu au milieu des hommes. Apocalypse 21, 30. On célèbre au cours du mois de novembre l'anniversaire de la dédicace des grandes basiliques romaines. De plus, celui de la consécration de toutes les églises, autres que les cathédrales, a été fixé en France au 6 de ce mois. Nous avons donc plusieurs fois l'occasion de lire la messe composée pour la dédicace d'une église. Les pièces en sont fort belles, mais peut-être n'en saisit-on pas tout de suite l'unité. La collecte ne fait état que du temple matériel où nous sommes rassemblés. Mais la post-communion nous montre au-dessus de lui la Sainte Église catholique, tandis que l'Épître, comme d'ailleurs l'hymne des Vêpres, nous transporte au seuil de la Jérusalem céleste. Cette diversité d'objets est plus sensible encore si l'on chante, comme c'est l'usage dans le diocèse de Paris, la séquence et la préface de l'ancienne liturgie gallicane. En réalité, la fête de la dédicace nous fait entrer dans la mystique de l'Église et cet enseignement est tout à fait à sa place dans les derniers jours du cycle annuel qui conduisent l'humanité rachetée au royaume éternel où le Christ l'introduira à la fin des temps. L'idée maîtresse de la liturgie de ce jour se présente d'elle-même aux fidèles qui, pour mieux méditer la phrase des introïtes, a l'excellente habitude de se reporter au contexte d'où elle est tirée. Que ce lien est redoutable, que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Genèse 28, 16. Ainsi s'exprimait Jacob en s'éveillant du songe dans lequel il avait vu l'échelle mystérieuse reliant le sol au sommet du firmament et par où montaient et descendaient les anges de Dieu. Certainement Yahvé est en ce lieu, s'écria le patriarche, et moi je ne le savais pas. Aussitôt, dressant la pierre qui lui avait servi de chevet, il oignit d'huile et en fit un autel à la gloire du Seigneur. Ainsi en est-il de nos églises, consacrées à Dieu. Elles réunissent la terre au ciel. Comme par une échelle invisible, les messagers célestes, dans un va-et-vient incessant, portent nos prières devant le trône de Dieu et nous en rapportent ses grâces. Il manque cependant à cette chaîne l'anneau intermédiaire, à vrai dire l'anneau essentiel qui est l'Église, corps mystique du Christ. Pour obtenir une meilleure vue d'ensemble, figurez-vous une pièce de théâtre dont l'action se déroulerait simultanément sur trois scènes superposées. Tel est exactement le drame liturgique qui se joue aujourd'hui sous nos yeux. Nous avons en face de nous trois plans, le plan matériel, le plan spirituel et le plan éternel, sous un commun dénominateur caractérisé par la phrase de l'Épître « Ecce tabernaculum Dei cum hominibus ». Voici la demeure de Dieu au milieu des hommes. Notre pensée doit embrasser dans un même regard trois demeures de Dieu au milieu des hommes. Nos églises matérielles, qui sont la figure de l'Église société spirituelle, instituée par Jésus, laquelle est elle-même le type de la cité future où les enfants de Dieu seront admis après la résurrection générale. Le premier but de l'office de la dédicace est d'éveiller en nous un attachement respectueux à nos temples construits de main d'homme pour la célébration du culte divin. Il reste encore quelques ouailles attardées du vicaire savoyard pour trouver à redire non seulement au luxe des églises, mais à leur existence. A-t-on l'idée d'enfermer dans un bâtiment le Dieu infini qui est partout, alors que nous pouvons l'adorer dans la nature et l'entendre dans notre conscience? Je veux croire, puisqu'elles le disent, que ces personnes n'ont pas besoin d'aller à l'église pour prier. Dieu est partout, mais dans l'existence fiévreuse qui est la nôtre, nous risquons de ne le trouver nulle part, faute du silence qui est nécessaire pour le rencontrer. L'évangile de la messe nous parle d'un riche collecteur d'impôts qui comptait voir Jésus sur la place publique en se hissant sur les branches d'un sycomore. Zachée le vit assurément. Mais si le Seigneur ne lui avait pas dit « Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi », ce pécheur aurait-il entendu ce que le Sauveur allait lui faire connaître dans l'intime de son cœur? Cette rencontre lui valut le salut ainsi qu'à toute sa famille. Il est vrai, Dieu nous a parlé quelquefois dans le brouhaha de la rue, plus clairement, plus profondément qu'à travers les distractions de nos prières à l'Église. Cependant, quand nous le cherchons, quand nous avons besoin de l'entendre, ce n'est pas dans le tumulte que nous le trouverons. De nos jours, bien peu ont la possibilité de fermer la porte de leur chambre pour prier le Père dans le secret. Nous avons plus de chances de le rencontrer dans nos églises. Ne convient-il pas, en outre, que parmi les maisons du bourg ou du village, un édifice particulier rappelle à tous la présence de Dieu au milieu des hommes? Dès que nous pénétrons à l'intérieur de nos temples, avant même d'avoir salué le tabernacle et la croix, nous sommes pris dans une atmosphère de prière. Tant d'autres y sont venus avant nous exprimer leurs désirs, leurs promesses, leurs détresses, leurs regrets. Plus que la patine du temps, les pierres de nos églises semblent garder l'empreinte des supplications de ceux qui nous précédèrent. Pierres précieuses, dit la liturgie, elles le sont aussi parce qu'elles attestent la générosité de nos devanciers dans la foi, dont les ressources, souvent les sacrifices, ont permis l'érection de nos églises. De ce point de vue, elles sont un peu notre maison. Toutefois, le temple n'est que secondairement la maison du peuple chrétien. Il est d'abord la maison de Dieu. Lorsque nos aïeux l'eurent élevé, ils répétèrent la prière de David, désignant les matériaux qu'il avait accumulés pour la construction du temple. Elle figure à l'offertoire de la messe. « Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, je vous offre tout cela d'un cœur joyeux. » Puis ils en firent don à Dieu, comme l'indique le mot de dédicace, qui signifie donation, consécration. Désormais, cette église ne nous appartient plus. Elle est sa maison. Nous ne recevons pas Dieu chez nous. Dieu nous reçoit chez lui. Entrons-y toujours avec respect. Le style même des édifices nous y invite. Nos églises sont l'arche où Dieu nous abrite pour que nous échappions au déluge qui engloutira les pécheurs, d'où leur forme fréquente de navires, nefs renversées. C'est dans nos églises que Dieu nous applique les mérites de l'unique médiation de Jésus-Christ, d'où leur forme habituelle de croix. Nous sommes ici dans l'antichambre qui ouvre sur le ciel, d'où les voûtes élevées de nos églises. Cependant, dans la maison paternelle, les enfants ne sont pas des étrangers. En ce sens seulement, la maison du Père est aussi la nôtre. Mais elle l'est à un titre communautaire. Ma maison est une maison de prière, antienne de la communion, ouverte à quiconque veut s'y recueillir par sa destination première. Elle n'est pas un lieu de prière privée. Son objet propre est la prière publique et collective. C'est là que se réunit l'Ecclésia, l'assemblée des fidèles convoquée par Jésus-Christ pour continuer sur la terre sa prière sacerdotale. Nos temples sont la maison du peuple de Dieu. Sur la scène où se poursuit le jeu de la dédicace, examinons maintenant le second plateau où apparaît l'Église spirituelle dont l'édifice matériel était la figure. Nous ne chicanerons pas le passant de bonne volonté qui déclare avec conviction ne jamais prier aussi bien qu'en dehors des offices, lorsqu'il y a très peu de monde dans les églises, qu'il ait au moins des yeux pour voir. Que signifie la chair qui, dès l'entrée, attire ses regards, et le baptistère près de la porte, et l'autel dans le fond, et sur les côtés ces meubles d'invention assez récentes, les confessionnaux? Tout ici lui parle de l'Église de Jésus-Christ, dont le chef réside à Rome, comme le rappelle la statue de Saint-Pierre, tenant en main les clés du royaume. Entre les murs du temple matériel, la Sainte Mère Église sanctifie ses enfants. De cette chair, nous apprenons la vérité qui nous délivre de tous nos points d'interrogation. Ballottés par les courants contraires des systèmes philosophiques qui se disputent les esprits, nous ne trouvons que dans notre Église les conditions de la paix intellectuelle. Elle seule a l'audace de dénoncer l'erreur. Elle est le butoir qui retient nos cerveaux toujours sous pression, la cale qui nous empêche de verser dans le précipice, la barque sur laquelle nous voguons en sûreté, le bercail où nous trouvons la protection d'un toit, l'appui inébranlable du chercheur en quête de vérité. Sa doctrine n'est pas la sienne, mais celle du Christ qui l'a envoyée. Et c'est aussi la loi de Jésus qu'elle promulgue, sans en rien retrancher, comme sans l'aggraver. Sa sagesse est également éloignée d'un stoïcisme inconsidéré qui favoriserait avec l'orgueil les revanches fatales de la nature et d'un laisser-aller qui aboutirait à la suprématie de tous nos égoïsmes. Maîtresse du salut, l'Église nous fait naître à la vie de Jésus-Christ dans la piscine baptismale. Elle possède la puissance de nous attacher au Christ aussi solidement que les sarments adhèrent au plant de vigne. Mieux, elle nous incorpore à lui, au point que nous devenons ses membres. Regardez la croix qui domine l'autel. C'est là que l'Église annonce la mort rédemptrice de notre Sauveur. Par elle, nous sommes plus que les témoins du calvaire. Nous pouvons offrir à Dieu la victime qui s'est immolée pour nous. Jadis, la croix ne portait pas l'image du divin crucifié. Aucune représentation plastique ne risquait de distraire les esprits du vrai corps du Christ que le prêtre déposait dans la main du communiant. De ce corps, chacun de nous se nourrit, afin que la vie divine se développe dans nos âmes. Tremblons-nous de n'être pas assez purs pour le recevoir ? L'Église, à qui fut donné le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, nous accorde le pardon de Dieu, guérit nos blessures et nous arme contre les tentations à venir. Le second objet des fêtes de la dédicace est de nous faire prendre une conscience plus vive de notre dignité de membre de l'Église par qui Dieu habite avec nous. Faites attention cependant aux différents vocables dont se sert la liturgie. De la maison de pierre, elle nous a fait passer à l'image d'une maison vivante dont les chrétiens sont autant de pierres cimentées les unes aux autres pour élever peu à peu le temple de Dieu sur la terre. Cette pensée est empruntée à l'apôtre saint Pierre. « Vous-même, écrit-il, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison spirituelle et du saint sacerdoce, grâce auquel vous offrez à Dieu, par Jésus-Christ, des sacrifices dignes d'être agréés. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Cette seconde image vient en surimpression sur la première. La maison est emprise maintenant dans son acception, figurée pour signifier la famille. L'Église, société des chrétiens, est la famille des enfants de Dieu. Or, sur le plan inférieur, matériel, bâtir une nouvelle Église, c'est construire une nouvelle maison de famille, destinée à une certaine portion du peuple chrétien. Transposer ce motif sur le second plan spirituel. Le jour de la dédicace évoque celui où s'est fondée la famille chrétienne, c'est-à-dire en langage mystique le jour des noces où Jésus-Christ a épousé l'Église. Cet autre thème est largement utilisé dans la séquence et dans la préface gallicane. La paternité en revient à saint Paul, qui voit dans l'amour du Christ pour son Église le modèle de l'amour de l'époux chrétien pour sa femme. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32. Il écrit également aux Corinthiens « Je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Nous célébrons donc ce matin le jour rédempteur où le Fils de Dieu s'est uni à l'humanité, ne faisant qu'un avec elle. Union féconde, d'où au matin de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu fera surgir une nouvelle race d'hommes, recréée à l'image du Christ et devenue des enfants de Dieu. nous n'avons plus qu'à assister à la fin du drame qui se termine à l'étage supérieur dans une apothéose. L'Église céleste, épanouissement glorieux de l'Église de la terre, nous montre ce qu'est devenu le peuple de Dieu. Cette vision d'avenir nous est présentée surtout dans l'hymne des Vêpres et dans l'épître de la messe. Le songe de Bethel s'est réalisé, car elle a ses assises sur la terre, cette église dont les portes étincelantes de joyaux sont ouvertes à tous les mortels qui, pour l'amour du Christ, ont partagé ses peines. Il est lui-même la pierre d'angle qui en assure la solidité. Les apôtres et les prophètes en forment les fondements, et tous les chrétiens sont les pierres vivantes taillées et polies par le ciseau et le marteau du divin ouvrier, dont les coups leur ont fait prendre la forme et les dimensions de la sainteté, enchâssées les unes dans les autres et disposées jusqu'au fait qui atteint l'empyrée. Les trois motifs métaphoriques exposés précédemment reparaissent dans la lumière de la cité future, demeure permanente de Dieu au milieu des hommes, car Dieu sera tout en tous. Bien plus que nos temples matériels, plus encore que l'Église spirituelle d'ici-bas, l'Église éternelle sera la maison de Dieu, la maison du Père aux nombreuses demeures. Il habitera avec eux et les hommes seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Les noces mystiques contractées silencieusement le jour de l'incarnation dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie entre le Fils de Dieu et l'humanité seront au jour de la parousie célébrée avec éclat. L'épouse, l'Église, notre mère, qui l'a tirée d'un abîme de misère, sera en ce jour la plus belle des reines. Toute parée, elle descendra à côté de son époux sur une terre renouvelée qui sera définitivement le royaume de Dieu. Enfin, et bien davantage encore, le thème de la famille divine reçoit sur le plan éternel sa pleine réalisation. C'est ici, dans nos églises de pierre, que nous avons été recréés, enfants de Dieu par l'Esprit-Saint, agissant au travers des sacrements de l'Église. Cette régénération tout intérieure est commencée et se développe ici-bas. La fête de la dédicace, c'est son dernier objet, nous fait assister par anticipation au terme de sa croissance. Présentement dans l'Église de la terre, comme l'écrit saint Paul, sur nos visages découverts, la gloire du Seigneur se réfléchit comme dans un miroir. Nous nous transformons en cette même image de plus en plus resplendissante. C'est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Mais plus tard, et c'est cet avenir que la liturgie nous montre, l'humanité régénérée aura atteint la stature parfaite du Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. L'homme nouveau aura pour habitat un monde nouveau, dont l'Épître nous donne la promesse. Les conditions premières auront disparu. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni gémissement, ni souffrance. Celui qui était sur le trône l'a dit, « Voilà que je fais toute chose nouvelle. » Telle est, mes frères, la vue d'ensemble que nous donne la liturgie de la dédicace. Elle souligne la continuité qui existe pour le chrétien entre la terre et le ciel. Entre les cris du petit enfant que l'on baptise et l'allégresse de l'élu dans un monde transformé, entre les messes de funérailles où vous avez pleuré et la cité nouvelle où il n'y aura plus de deuil, entre les espérances de votre messe de mariage et la couronne d'enfants qui vous devront les éternelles joies de la terre nouvelle, entre les rudes disciplines, les ordres exigeants, les sacrifices que nous impose l'Église de la terre et leur compensation dans les félicités de la Jérusalem céleste, entre les obscurités de la foi et les clartés de la vision béatifique, entre la communion eucharistique et les étreintes de l'amour du Dieu que nous verrons face à face. Tout cela forme une ligne continue qui nous révèle le prix que nous devons attacher à tout ce qui porte le nom d'Église. La demeure de Dieu au milieu des hommes.